Est-ce que c'est réaliste aujourd'hui de penser pour la France, par exemple, qu'on puisse faire un plan massif de réduction des dépenses publiques? J'ai croisé un chef d'entreprise qui s'était penché sur le budget français et qui avait enlevé plusieurs milliards.
Il faut quand même avoir conscience. Si on pouvait réduire le déficit public de façon aussi simple sans avoir d'effet sur la croissance, on le ferait. Je veux dire, depuis toujours. Il faut savoir quand même que, par exemple, dans les dépenses publiques, 35% sont des dépenses de l'État. Les dépenses de l'État, c'est que 35%. 45% sont des dépenses de protection sociale, c'est-à-dire sont des dépenses de retraite, sont de la dépense de santé, sont de la dépense de chômage, des dépenses de famille. Et on a 20% de collectivités locales. Donc, on peut essayer de trouver comme ça des économies qui semblent faciles, mais on s'apercevra rapidement que ça aura un effet sur la croissance. Il faut améliorer la productivité, que ce soit dans le secteur marchand ou dans le secteur non marchand, mais ça, c'est un phénomène structurel. D'un point de vue de réduction des déficits publics et de politique d'austérité, toute réduction de dépenses publiques aura un impact sur la croissance, certaines plus que d'autres, mais il ne faut pas croire qu'il y a des économies faciles, il n'y a pas d'économies faciles, surtout dans une conjoncture instable. Et il ne faut pas oublier que quand même, au début d'année, on avait une croissance qui repartait fortement dans tous les pays de la zone euro. On n'a pas su aussi profiter de cette début de consolidation de croissance. On voit que les plans d'austérité sont arrivés trop vite. Ils devaient arriver à un moment donné, mais je pense que le timing était mauvais.
Georges Lieberman, justement, sur ces perspectives, qu'est-ce que ça vous incite à faire, justement, sur les prochains mois pour le développement de votre entreprise? Comment vous allez faire? Vous avez parlé quand même d'investissement, il y a des marchés qui vont se développer, qui vont arriver. Quel va être le cap pour vous, justement, dans cette période?
On a plusieurs axes. On a un premier axe qui consiste à développer dans les autres pays d'Europe, ce que nous savons faire en France sur la sécurité des équipements gouvernementaux, des systèmes de santé, etc. Donc on est en train de dupliquer dans d'autres pays d'Europe qui ont des programmes lancés sur ces sujets-là. Et puis par ailleurs, nous nous intéressons de près, puisqu'on est un acteur assez bien positionné aujourd'hui dans le monde de la santé en France, nous nous intéressons de près à l'entrée des technologies dans tout ce qui touche à l'évolution de la médecine. Et tout ce qui touche en particulier à la télémédecine, puisqu'en fait les technologies aujourd'hui permettent de concevoir un petit peu différemment le rapport entre les individus et la médecine, d'éviter ce qui coûte le plus cher, c'est-à-dire l'hospitalisation, de travailler sur du télédiagnostic, de travailler sur de la téléconsultation, de travailler sur des dispositifs comme ça, qui sont fortement générateurs d'économies, de dépenses publiques, parce que là, on sait ce que coûte une journée d'hôpital, donc si on peut éviter 200, 300, 500 000 journées d'hôpitaux en mettant en place de la technologie de télésurveillance, etc., des malades et des traitements. Donc on travaille sur des projets comme ça, qui nous paraissent, en termes de business, des projets très porteurs, parce que générateurs de revenus significatifs, avec une volumétrie importante, et apportant des économies immédiates pour les gens qui les mettent en place. Donc on essaie de trouver un petit peu ces articulations win-win où ce qu'on vend finalement, c'est de l'économie. Et je pense qu'on ne sait plus vendre de la dépense aujourd'hui. Ça n'existe plus. Je veux dire, venir avec proposer aux gens de dépenser plus, c'est pas la peine. Donc il faut venir avec des solutions qui sont bâties sur l'économie. On travaille par exemple sur les... Alors ça va peut-être pas plaire aux automobilistes que nous sommes, on travaille sur les procès-verbaux électroniques, des choses comme ça. C'est qu'on est en train de dématérialiser tout le système de contravention. On est typiquement dans des domaines où l'ensemble des municipalités en France vont s'équiper d'outils électroniques pour faire de la contravention électronique. Tout ça va permettre de faire rentrer de l'argent plus vite dans les caisses de l'État, de faire des économies. Et donc notre credo aujourd'hui, c'est nous n'allons que sur les segments qui apportent de l'économie et de la réduction de coûts.
J'ai vu que vous aviez aussi déposé beaucoup de brevets, bien entendu, dans votre secteur, c'est important. Mmh. C'est une clé, ça, quand on voit des batailles entre des géants de l'électronique, notamment.
Alors on est un petit peu atypique, parce qu'on est une entreprise d'un petit peu plus de 50 salariés, et sur les 50 salariés, il y a une personne qui travaille à plein temps sur la propriété intellectuelle. Donc ce qui nous avait valu d'être remarqué par l'INPI, qui nous avait donné son prix, le prix de l'INPI l'année dernière, parce qu'il cherchait une PME qui avait une vraie politique, une vraie stratégie de propriété intellectuelle et qui gagnait de l'argent. Parce qu'il y a toujours un petit peu cette dualité entre les gens qui inventent et les gens qui font du business. Et on arrive à pas mal coordonner tout ça, et on invente et on arrive à faire du business à la fois. C'est un petit peu la qualité qu'on a. Effectivement, on a un portefeuille de propriété intellectuelle qui est significatif, dont je dirais qu'il est aujourd'hui plutôt défensif, et on est plutôt à la recherche de la protection de nos produits et de nos services, et à la recherche d'outils de défense par rapport à des concurrents internationaux. On n'a pas encore passé le cap d'avoir un portefeuille qui rapporte de l'argent au travers des royalties, etc.
Ouais, mais ça viendra. Eric Cohen, justement, sur ses perspectives, sur comment vous allez évoluer.
Je suis d'accord avec M. Lieberman, effectivement, sur le fait que depuis quelques années maintenant, le comportement d'achat des clients a vraiment évolué. Aujourd'hui, ils attendent un vrai retour sur investissement, quelle que soit la solution qu'ils vont mettre en œuvre dans leur organisation. Donc, effectivement, notre positionnement autour de la business intelligence et globalement la performance de l'entreprise. L'entreprise cherche à être plus performante, à être plus rentable, à mieux optimiser ses investissements et rationaliser ses coûts, mais également doit faire de la prospective et anticiper sur ses marchés à la fois nationaux et internationaux. Et c'est vrai que la force de Kairos, c'est que depuis maintenant une dizaine d'années, on a su nous déployer à l'international et accompagner en fait nos grands clients sur les projets également de croissance, tirés quand même aussi par l'innovation et un secteur technologique qui va quand même à 200 à l'heure. Et donc là, je rejoins aussi le sujet du crédit d'impôt recherche, qui est un vrai outil pour financer l'innovation et la recherche en France. Et je pense que c'est un vrai axe pour se différencier. Et donc, la France gagne en compétitivité aujourd'hui avec des acteurs comme Xirin, Kairos ou d'autres, grâce aussi à ce type de mesures qui, à mon avis, doivent perdurer dans le temps.
Alors, j'imagine que ça vous conduit sur l'innovation, bien sûr. Êtes-vous aussi au top, puisque ça évolue tellement vite, les systèmes d'information, nos systèmes d'information.
Voilà, donc ça évolue tellement vite. Donc nous, on a une approche qui est à la fois de chercher en fait des innovations propres à Kairos en complément des grands acteurs du marché. Donc si on parle un peu de la business intelligence, bon, on a les mastodontes, les SAP, les Oracle, les SAS, bon, Microsoft. Et puis on a des acteurs innovants. Donc notre système, depuis maintenant pas mal d'années, nous a conduit à créer une business unit spécialisée sur l'innovation, qui anticipe un peu les tendances, qui fait de la veille, qui met en marché des nouvelles technologies qu'on va détecter un peu partout dans le monde. Et je crois que les clients reconnaissent un peu ce savoir-faire à Kairos. Et on essaie nous-mêmes d'innover pour apporter justement cette valeur ajoutée qui est indispensable et positionner en fait l'entreprise à la fois sur une capacité à comprendre les enjeux métiers, ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Donc c'est un produit assez original, Kairos, puisqu'on n'est ni une société de services technologiques pure, ni un cabinet de conseil qui fait que de l'organisation et de la gestion et du management. On est les deux. Donc on est capable d'accompagner les directions opérationnelles et les directions générales dans leur vision stratégique et dans leur transformation et les processus qui doivent évoluer, et également mettre en œuvre les bonnes technologies pour effectivement piloter ces transformations. Donc c'est assez touchy, mais on a un positionnement qui nous permet quand même de faire une croissance de plus de 15% organique cette année. Je pense que c'est quand même une bonne nouvelle.
On vous souhaite en tout cas de bien continuer. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, Georges Lieberman, donc PDG de Xirin, et puis vous, Eric Cohen, donc PDG de Kairos. C'est la fin de l'économie en VO. Merci de nous avoir suivis.